Vous savez que depuis le début de l'année, ici à Angers, on aborde ce thème de l'Église. C'est un thème tellement important parce que l'Église, c'est un élément essentiel de la vie chrétienne. C'est un élément qui est très présent dans le Nouveau Testament. Et on a déjà vu plusieurs aspects de ce qu'est l'Église, de la manière dont elle est présentée dans le Nouveau Testament et de ce à quoi ça nous engage. Et la dernière fois que nous nous sommes réunis, dimanche dernier, c'est Daniel qui est intervenu, qui a traité ce sujet, qui a traité ce thème. Et il a pris ce texte que l'on trouve dans la première lettre de Pierre, au chapitre 2, sur lequel j'aimerais revenir avec vous. Et on va le relire. C'est vraiment ce texte-là qui va nous servir de support pendant ce temps de méditation qu'on va avoir ensemble. On va lire du verset 4 au verset 6. Pierre écrit « Approchez-vous du Seigneur, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et jugée précieuse par Dieu. » Prenez place, vous aussi, comme des pierres vivantes dans la construction du temple spirituel. Vous y formerez un groupe de prêtres consacrés à Dieu. Vous lui offrirez des sacrifices spirituels qui lui seront agréables par Jésus-Christ. Car voici ce qui est dit dans l'Écriture. J'ai choisi une précieuse pierre que je vais placer comme pierre d'angle en Sion. Et celui qui lui fait confiance ne sera jamais déçu. Comme Daniel nous l'a expliqué la semaine dernière, le temple que Pierre a à l'esprit lorsqu'il rédige ces lignes, c'est le temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem, c'était un monument splendide. C'était vraiment un des symboles les plus puissants de la foi juive au premier siècle de notre ère. Et pour avoir un petit aperçu de ce qu'était le temple de Jérusalem, voilà un schéma, voilà une reconstruction, un dessin qui a été fait, qui nous présente globalement ce qu'était le temple. Donc, vous voyez, c'était une immense plateforme, un immense podium, ou une immense esplanade, qu'on appelle aujourd'hui l'esplanade des mosquées, mais à l'origine, c'est l'esplanade sur laquelle était bâti le temple de Jérusalem. Et ce podium, il fait 450 mètres sur 300 mètres. Ça vous donne une idée, quand on connaît les dimensions, du caractère extraordinaire de cette construction. C'est un des podiums les plus grands qui existaient au Moyen-Orient à cette époque. Cette bâtisse, elle était magnifique. Et ce travail monumental, alors vous voyez là, vous avez des escaliers par lesquels on pouvait accéder à cette grande cour. C'est dans cette grande cour que se trouvaient les marchands du temple que Jésus a chassé. Vous aviez là différentes portes. Là, on est au sud, en fait. Là, on est à l'ouest. Là-bas, on est à l'est. Le mont des Oliviers est par là. Et quand vous pénétriez dans cette cour, ça c'était la cour qui était ouverte à tout le monde, même aux païens. Et puis vous avez deux autres cours, le sanctuaire lui-même se trouvant à ce niveau-là. Alors, il y a une représentation du temple qui va suivre. Ça c'est une maquette qui a été confectionnée, qu'on trouve au musée d'Israël, à Jérusalem. D'accord. C'est pour la petite lumière. Voilà. Donc voilà. Là, vous avez un portique immense. Donc là, les portes qu'on a vues tout à l'heure sont de ce côté-là. C'est comme si on était sur le mont des Oliviers, là. Là, ça, c'est la première cour dans laquelle on pénétrait. Enfin, la deuxième cour, là, il y a la grande cour. Et ça, vous voyez, c'est le sanctuaire lui-même. Et là, vous avez une forteresse qu'on appelait la forteresse Antonia qui surplombait le temple. C'est là qu'était la garnison romaine pour surveiller un peu ce qui se passait. Donc là, vous avez une autre entrée du côté du mont des Oliviers. Et c'était un monument extraordinaire, un monument prestigieux. Il est question du temple dans la Bible, dans l'Ancien Testament, mais le temple de l'époque de Jésus, ce n'était plus le temple qui avait été construit à l'époque de Salomon. C'était Hérode, qui nous est connu dans les évangiles, c'est lui qui a tué les enfants lorsque Jésus est né. Et donc le temple avait été à l'origine construit par Salomon, mais ce temple-là avait été détruit 400 ans après sa construction par les Babyloniens qui avaient envahi le pays d'Israël. Et ce temple-là, après avoir été détruit, a été reconstruit à environ 70 ans plus tard par un personnage qui s'appelait Zorobabel. Et à l'époque d'Hérode, au 1er siècle de notre ère, le temple qui avait été reconstruit par Zorobabel commençait à être bien décrépit. Il avait vieilli, il avait été mal entretenu. Et Hérode s'est dit, il faut que je construise quelque chose qui soit magnifique, qui soit splendide. Je vais reconstruire un temple ou rénover le temple de telle manière qu'il puisse être aussi beau, aussi magnifique qu'à l'époque de Salomon. Ce qu'il voulait, lui, c'était reconstruire le temple pour apparaître un peu comme étant le nouveau David, parce que c'est David qui avait eu le projet du temple, et aussi le nouveau Salomon. Il voulait donner beaucoup d'éclat à sa royauté. Il y avait ce projet derrière, il y avait cette idée derrière ce projet, cette idée de propagande. Mais il voulait vraiment construire quelque chose d'extraordinaire. Et il a réussi.
Il a réussi. Et c'est... Alors, je crois que j'ai d'autres photos, d'ailleurs, après.
OK. Donc, voilà un peu une idée des pierres qui ont été utilisées pour construire ce temple.
C'est pas un hasard si Pierre compare Christ à la pierre d'angle et les chrétiens aux pierres qui constituent le temple. Parce que les pierres du temple, que ce soit les pierres qui ont servi à construire la plateforme, le podium, ou que ce soit les pierres qui ont servi à construire le temple lui-même, c'était parmi les éléments les plus magnifiques et les plus remarquables du temple. Le sanctuaire, nous disent les historiens de l'époque, a été construit avec des pierres de 12,5 mètres de long, de 2,50 mètres de haut et de 3 mètres de large. Ça vous donne une idée, on a les dimensions, on les retrouve dans les textes, on a une idée assez précise de ce qu'étaient ces pierres qui ont été utilisées pour construire le temple. Le podium, là, a été construit avec des pierres qui faisaient 20 mètres de long.
Alors ça, justement... t'as déjà passé. Donc voilà, ça, vous voyez le bonhomme là à côté. Vous voyez un peu la taille qu'il a par rapport à l'immensité des pierres qui ont été taillées, qui ont été utilisées pour construire. En l'occurrence, ça, c'est les pierres du podium.
Les pierres du temple, malheureusement, on les a plus, hein, puisque le temple a été détruit en 70 de notre ère par les Romains. Et là, vous avez un exemple, hein, on est à l'angle sud-est, et vous voyez les pierres, comment elles se présentaient. Et on comprend pourquoi les pierres avec lesquelles était construit le temple suscitaient particulièrement l'admiration des gens qui venaient à Jérusalem. Et souvenez-vous de la remarque que l'un des disciples va faire à Jésus. On lit ça dans Marc 13 au verset 1. Ah oui, alors tu peux revenir en arrière. Oh oui, j'ai passé plein de choses là.
Donc ça, c'est une énorme pierre qui a été retrouvée sous la terre, parce qu'en fait, à l'époque de Jésus, il faut creuser dans la terre pour retrouver le niveau de l'époque de Jésus. Et ça vous donne un autre aperçu de l'immensité des blocs. Ça, c'est un bloc qui fait plus de 13 mètres de long, je crois. Vas-y, tu passes, ça sert à une autre vue. Et voilà, en fait, l'angle sud-est. Alors, ça vous donne une idée de ce qu'est une pierre angulaire. Vous voyez, une pierre angulaire, c'est ça. C'est la pierre qui fait l'angle, et tu as la photo d'après, je crois qu'on voit, voilà. Et ça, c'est, d'une certaine manière, la pierre de fondation. Donc, ça donne une illustration, et ça vous permet peut-être de visualiser un peu plus nettement ce que Pierre veut entendre, en disant que Christ est la pierre d'angle, le fondement, et en même temps, nous sommes les pierres qui sont édifiées sur cette pierre d'angle et sur cette pierre de fondation. Et on revient justement à ce que ce disciple a dit à Jésus. Il nous a dit, Marc 13, 1, « Tandis que Jésus sortait du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde, quelle belle pierre, quelle grande construction, quelle belle pierre !» Il y avait un travail de taille extraordinaire qui avait été fait pour sculpter, pour aménager ces pierres magnifiques qui avaient été effectuées par des personnes extrêmement qualifiées. Et il y avait deux objectifs que les ouvriers qui ont travaillé ces pierres ont cherché à atteindre. Et je pense que ces deux objectifs sont riches d'enseignements pour nous maintenant. Et c'est à ça qu'on va s'intéresser ce matin. Pierre dit qu'on est des pierres vivantes. Mais qu'est-ce que ça signifie être des pierres vivantes ? Et là, en regardant ce travail qui a été fait pour le temple de Jérusalem, on peut se faire une idée de ce qu'on peut retirer de ces pierres pour nous, les pierres vivantes que nous sommes, en tant que croyants, en tant que chrétiens et en tant que chrétiennes. Tout d'abord, premièrement, ces pierres ont été taillées pour être magnifiques. Les pierres qui ont servi à la construction du temple ont été sorties des carrières qui étaient autour de Jérusalem. Elles ont été équarries, elles ont été taillées dans la pierre brute. Et de cette pierre brute surgissait une œuvre d'art. Il y a même une carrière qui a été retrouvée à la fin de l'année 2007, au nord de Jérusalem. On a trouvé les traces de blocs qui pouvaient peser entre 5 et 7 tonnes, 8 mètres de long. Et il se trouve que cette carrière, elle était à 4 km du lieu où le temple était construit. C'est un travail titanesque, hein, d'aller chercher ces pierres, de tailler, de faire surgir ces blocs de la carrière, de les tailler et de les amener 4 km plus loin pour les assembler les unes sur les autres et construire ce temple magnifique, ce monument extraordinaire. Et Hérode a voulu, parce qu'il avait dans l'esprit de faire quelque chose d'aussi magnifique que David avait pu prévoir, a voulu que les pierres soient,
particulièrement soignée, que l'esthétique des pierres soit particulièrement soignée. Parce qu'ils se disaient, mais quand tout le monde va arriver à Jérusalem, notamment pour les pèlerinages, la première chose qu'ils vont voir, ce sont les pierres.
Et c'est pour cette raison, vous voyez, que les pierres sont taillées sur le côté.
C'est-à-dire qu'on n'a pas fait simplement que tailler des pierres rectangulaires,
on a fait en sorte de les ciseler sur le bord,
de manière à ce que ça soit magnifique et que ça frappe les regards. Les pierres du temple étaient reconnaissables justement à ce contour. D'ailleurs, on les retrouve dans d'autres constructions d'Hérode. Mais Hérode voulait que chaque pierre de la construction soit magnifique. Et c'est ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans le message de l'Évangile, c'est que Dieu nous accepte tel que nous sommes. Il m'accepte tel que je suis, brut, dans ma nature, et pas toujours très avenant, comme un bloc qui est dans une carrière et qui est au départ complètement difforme. Et là, Dieu, il m'accepte comme je suis. Il me laisse venir à lui comme je suis. Peut-être que je suis colérique, peut-être que je suis impatient, peut-être que je suis jaloux, susceptible, révolté, critique, hautain. Peut-être que j'ai le souci de vouloir tout contrôler autour de moi. Ou alors, au contraire, je suis plutôt d'un naturel anxieux, inquiet. J'ai beaucoup de mal à trouver cette tranquillité intérieure dont j'ai besoin. Peut-être que je n'ai aucune confiance en moi, que je suis blessé par la vie. Mais quand on décide de prendre Jésus comme fondation de sa vie, comme on décide de prendre Jésus comme fondation pour son existence, comme cette pierre de fondation, cette pierre d'angle sur laquelle est édifié le temple, quand on décide de se mettre à l'écoute de Jésus, de prendre au sérieux sa parole, de laisser cette parole agir dans notre cœur, dans notre vie, cette parole, elle nous change. Cette parole, elle nous transforme. Cette parole, elle nous embellit. Et cette parole, elle nous rend magnifiques, comme les pierres du temple. On n'est pas destiné à rester comme nous sommes. Nous ne sommes jamais destinés, tout le temps que durera notre pèlerinage ici-bas, à rester les personnes que nous sommes. La logique de la vie chrétienne, c'est le changement, c'est la transformation. On est appelé à toujours plus ressembler à Jésus. Et notre caractère change parce que, dans la mesure où on est OK pour que le Saint-Esprit accomplisse cette œuvre en nous, pour que le Saint-Esprit nous taille, nous sculpte. C'est un travail qui peut paraître titanesque, hein, quelquefois, quand on est confronté à notre caractère, quand on est confronté à ce que nous sommes, quand on est confronté à nos faiblesses, on se dit, mais comment on va faire pour pouvoir changer? Comment est-ce que je vais pouvoir assurer ce changement, cette transformation? Mais c'est pas à nous de l'accomplir, c'est au Saint-Esprit. Nous, ce que nous avons à faire, c'est d'ouvrir notre cœur pour nous laisser tailler par le Saint-Esprit, nous laisser sculpter. Et ça peut paraître un travail titanesque, mais c'est le rôle du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui agit en nous à ce moment-là et qui accomplit cette œuvre pour nous embellir et faire de nous quelque chose de magnifique. C'est ce que Jésus a fait avec l'apôtre Pierre. Quand Jésus rencontre Pierre, il va changer son nom. On lit ça dans Jean 1, verset 42. Lorsque c'est André, le frère de Simon, qui va présenter son frère à Jésus, et c'est au verset Jean 1, 43. Il le conduisit vers Jésus, et Jésus, l'ayant regardé, dit « Tu es Simon, fils de Jonas, fils de Jean. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » C'est extrêmement intéressant, là, cette façon dont Jésus aborde Pierre, parce que, en fait, dans le texte, lorsqu'il est dit que Jésus regarde Pierre, littéralement, c'est, il regarde dans Pierre. Le préfixe du verbe, là, c'est à l'intérieur. Il va fixer Pierre. Et ça décrit un regard pénétrant, un regard qui plonge jusqu'au cœur, jusqu'au plus profond de Simon. Et quand il le regarde, il ne voit pas Simon dans toute sa faiblesse et dans toute son imperfection. Il ne voit pas le Simon versatile, il ne voit pas le Simon qui peut s'emporter facilement, mais il voit déjà celui qu'il est appelé à devenir. Un roc sur lequel il va pouvoir bâtir son église. Simon, c'est le gars naturel, c'est le gars brut, c'est le gars là, c'est le bloc qu'on tire de la carrière. Mais Pierre, c'est l'œuvre magnifique qu'il veut accomplir. Qu'il veut accomplir en lui. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'avec Pierre, ça a été un travail titanesque. Parce qu'il y a eu besoin de changement, il y a eu besoin de transformation. Quand on le prend au début de l'Évangile, On n'imagine pas que ce gars-là, c'est celui qui sera un des éléments moteurs de l'Église, de la communauté de Jérusalem. Peut-être que personne ne pouvait le voir. Mais Jésus, lui, il sait. Il sait qu'il y a quelque chose de magnifique, qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de beau qui est attiré de Pierre. Et ça, c'est ce que le Saint-Esprit a accompli. C'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il veut faire avec chacun d'entre nous. À la fin du XVe siècle, il y a un sculpteur qui était très connu et très apprécié pour son époque, qui s'appelait Agostino di Duccio, qui vivait en Italie, comme son nom l'indique assez clairement. Et il avait repéré un bloc dans une carrière là, qui se trouve dans une ville qui s'appelle Carrare, un bloc de marbre. Carrare, c'est une ville en Italie, et c'est une immense carrière de marbre. Et il avait vu un bloc, et il pensait que de ce bloc, il pourrait sculpter une statue magnifique, une statue de prophète, qui servirait à la décoration et à l'ornement de la cathédrale de Florence, un magnifique monument. Alors il a tiré ce bloc, il l'a fait venir à Florence, et puis il a commencé à sculpter. Et puis au bout de quelques temps, il s'est rendu compte de la fragilité du bloc. Et il s'est dit non, de ce bloc-là, je ne vais pouvoir rien en tirer. Alors le bloc de marbre, il était là, il est resté pendant plusieurs années dans un coin. Et 10 ans plus tard, il y a un autre sculpteur qui s'appelait Antonio Rossellino, qui à son tour va voir le bloc. Il se dit « Je pense que je peux faire quelque chose de ce bloc. » Et il commence lui aussi à sculpter, à essayer de pouvoir donner une forme à ce bloc brut. Et au fur et à mesure où il commençait à sculpter, il s'est aperçu que ce bloc n'était pas assez compact. Il le trouvait trop friable, trop étroit. Il y avait trop de vénures. Et ce qui fait que quand il frappait, ça se cassait au lieu de pouvoir prendre la forme qu'il imaginait. Alors Rossellino, comme dit Duccio, il a dit « Ce bloc-là, on ne peut rien en tirer. » Et il l'a laissé. 28 ans plus tard, c'est Michel-Ange, le fameux sculpteur, ce génie de la sculpture, de la peinture, génie de tout, qui a repéré ce bloc. Il récupère le bloc, et de ce bloc, au bout de 3 ans de travail, il va tirer une des statues qui est considérée comme un des chefs-d'œuvre de la sculpture. David, c'est la photo qu'on a vue tout à l'heure, c'est ça. Donc la photo s'arrête au bon niveau, hein, parce que il a pas de pantalon. Donc, au début, j'avais mis une photo de lui, j'avais rajouté une feuille de vigne, mais je me suis dit, ça fait bizarre, quoi, sur ce chef-d'œuvre magnifique. Mais il a tiré cette statue de David, là, qui est avec sa fronde face à Goliath, avec des proportions incroyables, un chef-d'œuvre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été la différence entre Michel-Ange et les deux sculpteurs précédents? C'est que lui, il voyait David dans le bloc. Il voyait David. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a retiré David de la gange, de pierre dans laquelle la statue se trouvait. Ça a été un travail titanesque. Il a mis 3 ans à dégager David de cette gange de pierre. Mais il a fait de ce bloc informe que personne d'autre n'arrivait à travailler, il en a fait quelque chose de magnifique. Il en a fait un chef-d'œuvre. Changer dans la vie chrétienne, c'est pas une option. C'est pas quelque chose qu'on prend en plus quand on a accepté l'Évangile. On prend tout. Donc on prend le changement, on prend la transformation, on prend le travail que le Seigneur veut faire en chacun d'entre nous pour nous tailler, pour nous transformer, pour faire de notre caractère quelque chose qui soit mieux. Et l'Évangile n'a de sens que s'il opère une transformation et que nous devenons les personnes que Dieu a prévu que nous soyons. Nos histoires, nos blessures, nos échecs quelquefois, tout ce qui nous a modelé dans la vie fait que on peut se sentir comme enfermé, comme étant dans une gangue de pierre. Et on a vraiment, et vous avez peut-être ce sentiment de ne pas être la personne que vous aimeriez être. Que ce que vous vivez, ce que vous pensez ne correspond pas exactement à ce que vous aimeriez être. Et c'est vrai que c'est impossible de nous défaire de nos mauvaises habitudes, impossible de nous défaire de pensées qui viennent s'imposer à nous, qui sont liées à ce que nous avons vécu, de nos réflexes, de nos défauts. Mais ce qui est certain, et parce que c'est le message de l'Évangile, le Saint-Esprit est là pour agir en nous. Et le Saint-Esprit est là pour nous embellir, pour nous travailler, pour faire de nous quelque chose de magnifique, quelque chose qui est appelé à se développer au fur et à mesure que nous marchons avec le Seigneur. C'est pour ça que c'est tellement important de se fonder en Christ, de se fonder en Christ en connaissant sa parole, de se fonder en Christ en lisant sa parole, parce que c'est la base sur laquelle notre vie est fondée, nos valeurs, nos choix sont fondés. C'est tellement important de se fonder en Christ, d'être ferme sur cette fondation. Parce que face aux circonstances que nous sommes appelés à rencontrer dans nos vies, quelquefois ça bouge, quelquefois ça tangue, et quelquefois on comprend pas ça. Et notre manière de réagir, elle est souvent déterminée par nos dysfonctionnements. Et notre prière, bien souvent, c'est face à ces circonstances, c'est de dire « Dieu, change les circonstances ». Mais les circonstances que nous voudrions voir changer sont peut-être celles que Dieu utilise pour que nous, nous changions. Mais il n'y a que l'Esprit qui peut accomplir cela. Que l'Esprit. Et on a besoin d'être convaincu de cela. On a besoin de se le répéter. On a besoin de s'enraciner dans cette conviction. Sinon, il ne se produira rien. Mais par contre, si vraiment j'apprends à me fonder sur cette fondation inébranlable, je vais devenir cette pierre vivante. Cette pierre vivante qui est Christ va me communiquer la vie dont j'ai besoin. Et face aux circonstances même les plus compliquées, même les plus difficiles à vivre, Christ va me communiquer la vie dont j'ai besoin. Et ça, ça va opérer quelque chose en moi, quelque chose qui va me changer, quelque chose qui va me transformer et qui va faire de moi un chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre que Dieu a vu lorsqu'il nous a créés, lorsqu'il nous a tissés dans le ventre de notre mère. C'est ça l'œuvre que Dieu veut accomplir en chacun d'entre nous. N'en doutez pas. Même si vous avez l'impression que pour vous, c'est un travail titanesque et impossible, ne doutez pas de cela, parce que la foi que vous aurez en cela, c'est ce qui va vous permettre de voir vos vies changer, de voir vos cœurs transformés, de devenir des personnes qui vont correspondre à ce que Dieu a prévu que vous soyez. Ça, c'était le premier objectif, des pierres taillées pour être magnifiques. Et le deuxième objectif que les ouvriers avaient en taillant les pierres qui ont servi à la construction du temple, c'était que ces pierres soient fonctionnelles, qu'elles servent à quelque chose. Une fois taillées, ces pierres devaient être assemblées les unes aux autres pour constituer le temple. Elles ont été réunies les unes aux autres, et une fois réunies, elles permettaient de matérialiser le lieu où les Juifs venaient prier, venez offrir des sacrifices, venez rencontrer Dieu. C'était le lieu privilégié de la rencontre avec Dieu. Alors bien sûr, Dieu n'habitait pas vraiment dans le temple, parce que Dieu, il est partout. Mais il y avait cette idée que le temple était là pour rassembler le peuple d'Israël. Et ces blocs qui constituaient le temple, qui étaient des blocs énormes, des blocs puissants, comme on l'a vu tout à l'heure, étaient minutieusement taillés afin qu'ils puissent être parfaitement agencés les uns par rapport aux autres. Et les pierres étaient tellement bien taillées que les constructeurs du temple n'ont pas eu besoin d'utiliser de ciment ou de mortier pour assembler les pierres les unes aux autres. Il n'y a pas eu besoin. Le monument, que ce soit le sanctuaire ou même l'esplanade, tout ça, ça tenait debout grâce au jeu de force qui était dégagé par chacune des pierres. Et le fait qu'elles étaient aussi parfaitement taillé, faisait que le monument tenait debout. Il n'y avait pas besoin de liant. Jésus a dit à Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Il est bien dit dans ce texte, et ça nous a été rappelé par Ulrich au tout début, que c'est Jésus qui dit qu'il va bâtir l'église, et que les portes de l'enfer ne pourront pas prévaloir sur ce projet que Jésus a eu. Dès le départ, il voulait que ceux qui le reconnaîtraient comme Seigneur, comme Sauveur, se rassemblent, constituent cette communauté. C'est Jésus qui bâtira, c'est Jésus qui bâtit, mais avec Pierre. Il n'a pas rassemblé ses disciples en disant « Je bâtirai mon Église ». Il a dit à Pierre « Je bâtirai, sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Pierre, on le sait, a joué un rôle important, hein, on le rappelait tout à l'heure, dans l'histoire du christianisme et au début de l'histoire de l'Église. Il a joué un rôle déterminant dans la construction de l'Église. Il a apporté sa pierre à l'édifice, c'est le cas de le dire. À la Pentecôte, c'est lui qui prêche et qui va toucher des dizaines et des dizaines, des milliers de personnes. Il va être enfermé, on le sait aussi, en raison de sa prédication. C'est lui qui va prêcher à Corneille, le centurion romain. Il a accompli une œuvre gigantesque. Et qu'est-ce que ça indique? Ça indique que Jésus ne travaille pas seul. Le Dieu dans lequel nous croyons, et Jésus en tant que Seigneur, nous le voyons comme un Dieu tout-puissant. Et on a raison de le voir comme ça. C'est ce que nous dit, ce que nous enseigne le Nouveau Testament. Mais Dieu cherche des ouvriers. Jésus veut travailler avec des ouvriers. Il veut travailler avec ses disciples. Il bâtit avec ses disciples. Et c'est ce que dit Paul en reprenant l'image du temple qui est complémentaire de celle qu'on trouve évoquée dans la première lettre de Pierre. On peut lire ça dans 1 Corinthiens, chapitre 3. On va lire du verset 9 au verset 17. Alors soyons attentifs à ce que dit Paul dans ce passage-là. Il dit
« Car nous sommes ouvriers avec Dieu. »
Nous sommes ouvriers avec Dieu.
« Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. »
Et là, il passe là dans la comparaison de l'Église avec le Temple.
« Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, là
il parle de son ministère,
j'ai posé le fondement comme un sage architecte,
ou comme un maître d'œuvre, d'ailleurs, on pourrait traduire,
et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu.
Le jour, c'est le moment du jugement.
Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu, comme au travers d'un incendie. Il va sentir le roussi s'il a mal contribué à la construction de l'Église. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes.
Quand on parle du temple du Saint-Esprit, la plupart du temps, on pense à nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et quelquefois même, j'ai entendu des partages, des méditations qui prenaient ce texte-là pour appuyer cette pensée. Alors c'est vrai, vous continuez la lecture de 1 Corinthiens, vous allez au chapitre 6, et là, Paul parle du croyant, du chrétien, la chrétienne, comme temple du Saint-Esprit. Mais là, le temple du Saint-Esprit dont il est question, c'est l'Église. Nous sommes collectivement le temple du Saint-Esprit. Et l'enseignement que Paul partage avec nous est là très important. Que dit Paul? Il dit que Jésus bâtit l'Église parce qu'il agit en nous par son esprit. C'est pour ça que collectivement, de manière communautaire, nous sommes aussi le temple du Saint-Esprit. Ça signifie, et je crois que Paul est quand même très clair, que nous avons une part en tant que disciples, une part à faire dans la construction de l'Église. Même si l'Église est le projet de Jésus, même si l'Église est ce que Jésus a toujours vu, a toujours projeté, elle sera aussi ce que nous en ferons. Elle sera aussi ce que ses disciples en feront. Paul enseigne ici que l'Église peut être forte, comme elle peut être fragile. Tout dépend de ce que chaque chrétien apporte à sa construction. Au verset 10, Paul dit bien qu'en tant qu'apôtre, il a posé le fondement de l'Église. C'est lui qui est venu fonder cette Église de Corinthe, c'est lui qui l'a établie. Et il dit que le fondement qu'il a posé, c'est Jésus-Christ. Mais il dit aussi que son ministère n'est pas suffisant pour que l'Église soit bâtie. Il dit que les chrétiens sont appelés à œuvrer. Et il parle de l'or, de l'argent, de pierres précieuses, de bois, de foin et de chaume. Alors vous voyez que ce sont des matériaux qui n'ont pas tous la même valeur. L'or, l'argent, les pierres précieuses, ça n'a pas la même valeur et surtout ça n'a pas la même solidité que du bois, du foin et du chaume, parce que c'est surtout cet aspect de solidité sur lequel Paul se concentre. Et l'or, l'argent, les pierres précieuses, le bois, le foin et le chaume, c'est l'œuvre que chaque chrétien, c'est au verset 12 et 13, hein, que chaque chrétien accomplit pour l'Église. Chaque chrétien. Il est pas en train de dire, moi je suis un apôtre, l'Esprit m'a envoyé, j'ai fondé cette Église, et puis boum, voilà ça. Non, chaque chrétien est appelé à construire. Il faut juste que chaque chrétien voit comment il construit. Parce que Paul dit clairement que chaque chrétien répondra devant Dieu de la manière dont il aura accompli son œuvre pour l'Église. C'est le genre de texte qu'il vaut mieux prendre au service, qu'il faut prendre au sérieux. Je crois qu'il y a l'idée de service derrière l'œuvre que chacun a à accomplir. D'un côté, c'est vrai, la Bible nous dit que Dieu veut faire de nous quelque chose de magnifique, de splendide, mais pour un but. Alors ça, on aime l'entendre. Mais là, c'est un peu plus difficile à entendre. Là, de mon investissement, de l'œuvre que je vais accomplir, il faudra que j'en réponde devant Dieu. Et de l'investissement personnel de chacun dépend la force ou la faiblesse de l'Église. Si je construis avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ça, c'est du solide. Ça tiendra le coup. Si je construis avec du bois, du foin, du chaume, on voit que là, s'il y a un incendie qui vient, poum, ça disparaît, ça. Je suis même frappé parce qu'au départ, Paul dit, celui qui a construit de manière pas solide, celui qui a construit solide, de manière solide, il reçoit une récompense, mais au verset 15, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc, bon, les œuvres ne remettent pas en cause forcément le salut. C'est juste qu'il va sentir le barbecue, quoi, quand il va paraître devant Dieu. Enfin, la fumée du barbecue. Mais après, c'est peut-être un verset qui n'est pas si simple à interpréter, mais quand même, quand il dit, vous êtes le temple de Dieu, et il dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, il est toujours dans la logique de parler de l'Église, là. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Ça fait réfléchir quand même. Ça fait réfléchir. On a une responsabilité importante. C'est pour ça que les membres de chaque église sont appelés à se mettre d'accord sur ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? Ensemble, réunis. Qu'est-ce qu'on veut faire? Quels sont nos objectifs? Quelle vision de l'église partageons-nous? Quelle culture voulons-nous créer et entretenir dans notre Église? Comment s'agence-t-on en tant que pierre vivante pour faire de l'Église un temple vaste et magnifique, construit avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses? Est-ce qu'on travaille à faire quelque chose de beau? Est-ce qu'on travaille à faire quelque chose de solide? Ou bien quelque chose de fragile, qui peut même être détruit? Je ne pense pas que Paul pense de l'Église en général, parce que de toute façon, l'Église, les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Donc l'Église, elle existera toujours. Dieu fera toujours en sorte qu'il y ait des gens qui viennent à lui, qui fassent connaissance avec Jésus et qui se rassemblent pour former l'Église. Mais l'Église locale, j'ai l'impression que c'est de cela que Paul parle, l'Église locale, elle peut être détruite. Elle peut être détruite. C'est pour ça qu'il faut se dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Et comment on fait pour construire quelque chose de solide ensemble? Comment on fait pour se réunir autour d'un projet? S'agencer dans le but d'être fonctionnel et de construire un temple solide, c'est conjuguer au mieux ce que le Saint-Esprit nous a donné, nos talents, nos dons, notre énergie, la passion que nous avons pour Dieu, la passion que nous avons pour Christ. Comment on fait pour agencer tout ça? Moi, à mon sens, ça signifie deux choses. Tout d'abord, ça veut dire agencer nos caractères. Ce que la Bible appelle la sanctification. C'est toujours plus facile de travailler ensemble quand on s'entend bien. Je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. Le problème, c'est que nous avons les uns et les autres des caractères qui peuvent être très différents. Et les personnalités, les caractères ne s'ajustent pas toujours du premier coup. Alors c'est un peu difficile de pouvoir d'emblée reproduire cet agencement des pierres comme on les a vus tout à l'heure. On pense assez facilement que c'est la pierre d'à côté qui a besoin d'être remise en place. C'est la pierre d'à côté qui est un peu de travers et qui a besoin d'être taillée. Et des fois même, on prend l'initiative. On dit, elle a besoin d'être taillée, ben je vais la tailler. Sauf que nous, on ne taille pas des pierres, on taille des costards. Et le résultat
et pas forcément celui qu'on avait attendu ou qu'on avait projeté. On peut voir ça avec, voilà, vous voyez, les pierres. Ah, ça peut être la pierre ici, qui parle de la pierre d'à côté. Sauf que la pierre d'à côté, elle pense la même chose. Elle se dit, cette pierre, elle aurait besoin d'être remise à sa place. Elle n'est pas bien agencée. Elle aurait besoin d'être taillée. Alors, quand on réfléchit de part et d'autre comme ça, et je m'inclus dedans, hein, on construit plutôt avec du foin, du chaume ou du bois. C'est là qu'il faut avoir un coup d'œil, non sur la pierre que je suis ou sur la pierre que mon voisin est, mais sur l'ensemble que je forme des autres. C'est à ça que nous devons travailler. Si on se voit juste moi comme pierre et la pierre qui est à côté de moi avec laquelle j'ai un peu du mal à m'agencer, on perd de vue l'ensemble et l'objectif, la chose magnifique, splendide que nous sommes appelés à construire ensemble, avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'action du Saint-Esprit en nous. Agencer nos caractères, la sanctification, et agencer aussi nos actions. Ça s'appelle l'organisation. En tant que pierre vivante, on n'est pas appelé à faire chacun nos trucs dans notre coin. Un temple, ce n'est pas des pierres à droite et à gauche. Voilà. Là, j'ai une pierre à gauche, enfin une pierre à droite, une pierre... Moi, je ne vois pas un temple. Je vois des pierres. Mais est-ce qu'une pierre peut dire « je suis le temple » Hein, c'est comme un membre du corps qui pourrait dire « je suis le corps ». Non, aucune pierre ne peut dire « je suis le temple ». Et là, je ne vois pas un temple, je vois des pierres qui sont chacune dans leur coin. Mais tant qu'elles ne sont pas ensemble et qu'elles ne s'agencent pas ensemble, on ne verra pas ça. Et encore une fois, c'est ce qu'on doit garder à l'esprit. S'agencer, s'organiser dans pour faire en sorte de construire cela. Un temple, ce sont des pierres qui sont ensemble, qui sont regroupées sur un fondement, sur une fondation. Et si la pierre de fondation est la pierre angulaire, comme nous l'avons lu dans le texte de Pierre tout à l'heure, ça veut dire que cette pierre angulaire, elle oriente toutes les autres pierres de la construction. On va revenir à la photo. Là, vous avez la pierre de fondation qui est à la base, et vous voyez que toutes les autres pierres qui sont dessus, ça c'est l'angle sud-est de l'esplanade du temple. Et toutes les autres pierres qui sont sur la pierre de fondation vont dans la même direction que la pierre de fondation. Christ, la pierre d'angle de l'Église, donne la direction que nous sommes appelés à prendre tous ensemble. Et le but de l'organisation, c'est de mettre en commun notre énergie le plus efficacement possible pour atteindre les objectifs qui sont liés à la direction que l'Église doit prendre, à l'orientation que nous devons prendre ensemble. Si la vision de l'Église, c'est de faire du bien dans la ville où l'Église est placée, il nous faut une organisation qui nous permette d'aller dans cette direction. Et on est appelé à s'agencer de manière à ce que l'Église soit efficace dans le bien qu'elle est appelée à faire dans la ville où elle est. Si la vision de l'Église, c'est qu'un plus grand nombre de personnes connaissent l'Évangile, puissent vraiment recevoir ce message d'espérance, ce message de salut, ce message qui peut transformer une existence. Il nous faut une organisation qui nous permette de nous agencer pour aller dans cette direction. Si la vision de l'Église, c'est que ses membres développent des relations fraternelles pour s'édifier les uns des autres, comme on a pu le partager il y a quelque temps, il nous faut une organisation qui nous permette de prendre cette direction. Si la vision de l'Église, c'est d'accompagner les personnes qui s'engagent, qui prennent le baptême suite à leur engagement, eh bien, il nous faut une organisation qui permette de prendre cette direction. Si la vision de l'Église, c'est d'accompagner les personnes qui ont été blessées par la vie, des personnes qui ont besoin vraiment d'un accompagnement approfondi, il nous faut une organisation qui permette de donner et de communiquer à ces personnes ce dont elles ont besoin pour pouvoir sortir de cette gangue dont on parlait. Et des fois, c'est un travail qu'il faut faire en profondeur, qui prend du temps. Et ce n'est pas 2,4 pasteurs qui pourront faire ça. Il faut une organisation. L'organisation, si elle est bien faite, elle n'étouffera pas la vie.
L'organisation, au contraire, elle permettra à la vie de mieux circuler. Je parlais avec Marido hier dans la voiture, on était partis à Tours pour Actival. Dans la conversation, elle disait, mais le corps humain, c'est une organisation extraordinaire. Et c'est cette organisation-là qui fait que la vie circule, qui fait que je peux bouger, je peux courir, je peux parler. L'organisation, elle permet la vie de mieux circuler. L'agencement permet à chacune des pierres que nous sommes, non pas de se heurter, parce que si les pierres se heurtent, l'édifice va se fissurer, l'édifice va se lézarder. L'agencement permet au contraire de s'assembler pour exercer cette force, cette puissance que le Saint-Esprit nous a donnée aux uns et aux autres. Souvenez-vous des pierres qui sont ensemble, qui n'ont même pas besoin de ciment, de choses artificielles pour être unies. Mais la puissance qu'il leur est accordée va faire que l'édifice sera magnifique. L'édifice sera magnifique. J'aurais terminé en évoquant la Catalogne. Parce qu'il y a une tradition en Catalogne. Vous connaissez peut-être, vous avez peut-être déjà vu des reportages à la télé là-dessus, c'est d'édifier des tours humains, des tours humaines, qu'on appelle des castels. Je vais vous montrer une photo. Voilà le genre de choses auxquelles ils occupent leur temps là-bas en Catalogne. Ils édifient des tours en se montant les uns sur les autres, comme ça, des tours qui peuvent aller jusqu'à 10 niveaux, 10 étages qui sont constitués par des hommes et des femmes. Vous avez entre 8 et 10 mètres. 8 et 10 mètres, c'est que c'est un immeuble de 3 étages. Voilà, vous avez une photo qui est vue du dessus. Vous voyez comment les gens de chaque équipe s'assemblent pour pouvoir constituer cette tour humaine. En Catalogne, j'ai vu un reportage là-dessus, c'est une véritable passion. Ils font des concours. Il y a plus de 50 équipes en Catalogne de castels, de tours humaines. Et ils s'affrontent là, ils font des concours, ils essayent de battre des records. Et une victoire ou un record, c'est aussi important qu'une victoire du Barça, là-bas. C'est pour vous dire que c'est vraiment très, 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 très présent et très important. Et tout le monde participe. Tout le monde participe. Les hommes participent, mais les femmes participent. Et même les enfants participent. Quelles que soient les conditions sociales, on trouve des personnes qui viennent de différents horizons, des ouvriers, des professeurs, des banquiers, des hommes d'affaires. Ils s'unissent tous sans distinction. D'ailleurs, ils mettent un costume spécial, hein, on voit sur les photos, et il n'y a aucune distinction sur le plan social. Mais vous savez, pour arriver à édifier une tour humaine de 10 mètres de haut, ça ne s'improvise pas. Il faut un peu d'organisation. Hein. Alors, toute l'année, ils s'entraînent dans les gymnases, avec des grands filets, hein, forcément. Et puis, ils se mobilisent autour d'un même projet. Donc, on va faire cette tour. Alors, cette année, c'est nous qui allons gagner. C'est nous qui allons faire la tour la plus haute. Là, et leur projet, c'est édifier une tour humaine. Ils se réunissent, ils visualisent la tour, ils font des plans, ils réfléchissent comment la construire, puis ils font des essais. Alors, des fois, boum. Mais ils font des essais. Mais chaque personne compte, quel que soit l'âge, la condition sociale, et le rôle de chacun est primordial. Parce qu'à la base, vous avez les plus costauds. Et puis, après, vous avez les moyens qui vont former le corps de la tour. Et puis, après, tout en haut, c'est les enfants qui sont plus légers, qui vont constituer le sommet. Tout est coordonné. Tiens, mets la diapo d'après, parce que je la trouve tellement magnifique. Voilà comment ça fonctionne. Voilà comment on peut construire une tour humaine. Une tour faite d'êtres vivants, comme on construit un temple de pierres vivantes. On peut le visualiser. Je vais vous montrer un extrait de comment ça se passe. Alors vous allez avoir l'ambiance, hein, normalement. Oh. C'est tout en haut. Il faut qu'il lève la main pour dire qu'il a réussi. Attention, hop. On a accéléré. C'est extraordinaire. Vous voyez la dextérité. Vous voyez ce que la coordination de chacun peut faire. Alors regardez. Voilà ce que ça peut donner. Ah, les enfants. On arrête là parce que... Non, je voulais pas que vous voyiez ça. Je voulais pas que vous voyiez ça. Il faut être plus réactif. C'est impressionnant. Mais ils arrivent à quelque chose de beau, de magnifique d'une certaine manière. Mais cette tour, elle ne peut se construire que si chaque pierre le décide. Si chaque pierre apporte sa contribution. La tour est vivante que si chaque pierre prend sa place dans la construction. Nous sommes des pierres vivantes et nous avons la responsabilité les uns et les autres d'édifier, de construire notre Église. Alors, il y a une question que je vous laisse ce matin. On va prier, on va réfléchir à ça, mais comment est-ce qu'on va la bâtir, cette Église ? Comment on va la bâtir, cette Église ? Est-ce qu'on va en faire quelque chose de solide ? Quelque chose de fragile ? La meilleure façon d'être solide, et c'est sans doute ce qui fait la différence avec les tours humaines qu'on voit lorsqu'elles s'écroulent, c'est d'être fermement établi sur la fondation. Et c'est de suivre la direction qui nous est indiquée par cette pierre angulaire, la fondation de notre Église. La fondation qui a été posée par Monsieur Leroux, le fondateur de cette Église. La fondation sur laquelle s'est fondé Daniel, depuis qu'il est le leader, le responsable de cette Église. On est appelé à se fonder là-dessus, sur Jésus-Christ, sur l'œuvre de Jésus-Christ, et à être à son écoute pour prendre la direction qu'il veut que nous prenions, en tant que corps, en tant que temple. Et pour ça, il faut que, comme on l'a vu la semaine dernière, s'approcher à nouveau de Jésus, cette pierre vivante, parce que la vie, elle vient de lui. Et on est appelé à recevoir cette vie. Lorsque Jésus est entré dans le temple, dans la cour du temple, et puis qu'il a fait tomber l'étal des marchands qui étaient installés dans la cour, il y a des gens qui n'ont pas compris, ils sont venus le voir, ils ont dit, mais quel est le genre de miracle que tu nous fais là ? Et Jésus a répondu en disant, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Et il nous est précisé qu'il parlait de son corps, du temple de son corps. Et il évoque la mort par laquelle il va passer, et surtout la résurrection. Parce que en Christ, parce qu'il est Christ et le Fils de Dieu, et qu'il est celui que Dieu a envoyé pour notre salut, il est celui que Dieu a envoyé pour donner une direction à nos vies, il est celui que Dieu a envoyé pour donner une direction à l'Église, en Christ, la vie est plus forte que la mort. La vie est plus forte que la mort. On va s'en souvenir encore là. On va se souvenir de ce qu'il a vécu à la croix, de ce qu'il a souffert à la croix. Mais ça, ce n'est pas définitif. La victoire, c'est qu'il est vivant. Et cette vie-là, aujourd'hui encore, elle est appelée à agir en nous, en tant que personne, mais aussi en tant que temple, en tant que communauté. C'est une communauté que nous sommes appelés à bâtir ensemble. Il y a tellement de bonnes choses que Dieu nous donne pour notre vie personnelle. Mais ce qu'il nous donne, c'est ce qui sert aussi à construire cet édifice, ce temple magnifique. On peut se recueillir, on va prier. J'aurais prié pour les personnes qui sont comme prisonniers dans une gang, en raison de leur histoire personnelle et qui ne se sentent pas fonctionnelles, qui ont l'impression que cette construction, ce sera sans moi, parce que moi j'ai tellement de problèmes, j'ai tellement de difficultés, je m'en sors pas. Et en fait, je pense qu'à ça. C'est ça, mon horizon, c'est mes problèmes. Mon horizon, c'est mon caractère qui ne change pas. mon horizon, c'est les difficultés que je rencontre. Et je m'en sors pas. Et ça m'emprisonne. Et j'aurais vraiment compris ensemble pour nos frères, nos sœurs qui sont ici ce matin et qui se sentent comme prisonniers, qui ont l'impression qu'il n'y a rien de bon qui peut sortir d'eux, qui ne peuvent se concentrer sur eux que comme pierre brute, mais qui ne discernent pas l'œuvre magnifique que Dieu et le Saint-Esprit veulent accomplir en eux. Et j'aurais compris aussi pour que nous ne puissions pas nous considérer simplement comme chacun comme des pierres, mais qu'on prie ensemble et qu'on essaye, avec l'aide du Saint-Esprit, de nous projeter ensemble, qu'on puisse prendre cette résolution d'être ensemble, d'être une communauté. Dieu nous donnera toujours des choses qui seront bonnes pour notre épanouissement. Dieu exaucera toujours nos prières pour nos besoins personnels. Il est fidèle. Et combien de fois nous avons fait cette expérience? Mais il veut aussi nous donner des choses pour nous rendre fonctionnels, pour que nous puissions apporter notre contribution, notre participation, et que nous puissions nous orienter dans la direction qui est donnée pour cette église locale. Alors prions ensemble déjà pour nos amis qui sont dans cette gang. Seigneur, nous les remettons entre tes mains. Tu les vois là. Ils sont assis sur leurs chaises et ils sont comme immobilisés. Parce que depuis des années, ils ont l'impression qu'il n'y a rien qui change dans leur vie. Et ils se sont fait une raison d'une certaine manière en se disant mais pour moi, ce sera toujours l'échec. Pour moi, je ne changerai pas. Pour moi, ce sera impossible de pouvoir devenir quelqu'un d'autre, que mon caractère change, que ma situation change. Seigneur, je veux vraiment dénoncer ce mensonge. Parce que ce que tu as prévu pour chacun d'entre nous, c'est de faire quelque chose de magnifique. C'est de nous embellir. C'est de nous tailler, de nous sculpter. Et c'est vrai que les circonstances que nous pouvons rencontrer sont pas toujours agréables. Mais quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, même si elle est terrible, Seigneur, donne-nous d'être fondés sur toi, Seigneur, et de croire en ton action en nous, que la vie que nous puisons dans cette pierre d'angle que tu es, dans cette pierre de fondation que tu es, nous donne là de pouvoir vivre quelque chose que toi, tu vas nous donner. Seigneur, change-nous, transforme-nous. Et je te prie, mon Dieu, pour mettre cette conviction dans chacun de nos cœurs. Nous ne sommes pas destinés à être les personnes ou à rester les personnes que nous sommes maintenant, mais nous sommes destinés à être les personnes que tu veux que nous soyons. Alors nous voulons nous mettre à ta disposition. Seigneur, libère mes frères et mes sœurs ce matin qui pensent qu'ils sont prisonniers et que ce n'est pas possible. Parce que Seigneur, avec toi, rien n'est impossible. Et même ce travail qui peut paraître titanesque, impossible à accomplir, toi, tu peux le faire. Seigneur, viens déposer cette conviction dans chacun des cœurs ce matin. Que personne ne doute de cela. Je veux proclamer la libération de cette gang là, au nom de Jésus maintenant. Que par ton esprit tu agisses, que par ton esprit tu ranimes ce qui était mort dans le cœur de certains. Que ceux qui étaient sans espérance retrouvent l'espérance. Que ceux qui sont sans force retrouvent la force. Que ceux qui sont sans espoir retrouvent cet espoir. Seigneur, nous avons besoin de toi, nous ne pouvons pas nous changer. Mais tu peux le faire si nous nous mettons à l'écoute de ta parole, si nous voulons que tu nous changes, que tu nous transformes. Seigneur, unis-nous s'il te plaît. Toi, tu connais nos réflexes. On est des pierres, mais on veut être des pierres vivantes de ta vie à toi, Seigneur. Et si nous recevons ta vie, c'est pour être ensemble, c'est pour nous agencer, pas pour nous heurter, mais pour nous agencer dans notre caractère, dans nos personnalités, mais aussi dans notre organisation, Seigneur. Inspire-nous, guide-nous, conduis-nous, éclaire-nous, afin que nous puissions prendre la direction que tu as prévue, l'orientation que tu as prévue pour cette Église. Seigneur, accomplis ces choses en nous, Seigneur Dieu. On a besoin d'être ensemble, Seigneur. On a besoin de retrouver cette dimension communautaire, collective. Alors je te prie, mon Dieu, que tu puisses accomplir cela dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Agis par ton esprit ce matin. Et que nous puissions vraiment, Seigneur, fixer nos regards sur toi. Nous voulons nous approcher de toi, pierre vivante, afin de recevoir ta vie, recevoir ta vision. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen, Jésus.